connaissent pas du tout. Donc, je m'appelle Marianne Brockville. Je suis née dans le sud de la France, au pied des Cévennes. J'y ai laissé mon accent parce que quand on est arrivé à Saint-Légier, on se moquait de nous. Alors, sur le chemin de l'école, on s'exerçait à parler vaudois. Après, j'ai grandi là, dans les Hauts. Hein, et puis, depuis l'âge de 16 ans, j'étais à Morges. Et je suis revenue à Emmaüs plus tard pour les études. J'ai fait 3 ans de 84 à 87. Et c'était une grande bénédiction. Mais ce n'était pas du tout pour partir en mission. C'était pour rester dans le canton de Vaud. Mais les voies du Seigneur sont différentes. Et voilà, il y a 25 ans, le 3 janvier 1995, je suis partie au Népal. Et j'aimerais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse vraiment mettre notre Dieu au centre. Parce que c'est lui qui nous cherche. Il nous aime d'un amour profond. Et j'aimerais prendre Luc 15 pour parler de cela. Mais avant cela, j'aimerais vous dire que récemment, j'ai reçu un mail d'une fillette des États-Unis qui devait interviewer un ou une missionnaire pour un travail pour son école. Alors elle m'a posé plein de questions sur ce que ça voulait dire d'être missionnaire. C'était un bon temps de réflexion pour moi. Ça fait du bien des fois de s'arrêter, même après 25 ans sur le terrain, de se dire « mais c'est quoi ?» Et pour moi, je dirais tout d'abord que c'est d'avoir une mission. Et en cela, nous sommes tous missionnaires. Nous avons tous une mission. Et cette mission, je la vois du domaine diplomatique. Quand on parle d'une mission diplomatique, on entend qu'il s'agit d'un représentant d'un pays qui est dans un autre pays afin de représenter le pays d'origine. Et Jésus, en parlant à ses disciples, leur dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Car tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc, si notre pays n'est pas de ce monde, et que nous sommes envoyés par le Christ, comme il a été lui-même envoyé par le Père, nous sommes déjà maintenant citoyens des cieux, citoyens du royaume de Dieu. Donc nous avons une mission, celle de représenter notre patrie ici, là-bas, où notre roi nous place. Nous sommes tous ambassadeurs. Vous, moi aussi, nous sommes tous ambassadeurs. L'ambassadeur représente son pays, il ne fait pas ce qu'il veut. La stratégie, ce n'est pas lui qui la décide. C'est le gouvernement qui l'envoie et qu'il doit représenter dignement. On lit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » Le cri de Dieu, « Sois réconcilié avec moi. » Nous avons un Dieu qui nous cherche. Nous avons un Dieu qui veut une relation avec nous. C'est une différence très importante des grandes religions de la planète. Récemment, à l'église à Morges, on m'a demandé de parler du bouddhisme dans le cadre du catéchisme. Et c'est vrai que c'est très très différent. Dans la plupart des autres religions, il faut mériter. Et c'est son mérite qui détermine où ce qui va se passer. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, on balance son karma. Et c'est s'appliquer à faire tout juste pour espérer une existence meilleure, pour atteindre le paradis. C'est quelque chose que je vis dans mes relations au Népal. On est souvent mal compris d'ailleurs. On nous dit souvent « Ouais, tu fais beaucoup de bien, tu vas avoir un bon karma ». Il y a toujours cette relation mérité. Mais nous savons que nous ne pouvons pas gagner notre salut. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui nous aime, s'intéresse à nous et nous cherche activement. Il désire cette relation profonde avec nous. Nous lirons donc dans Luc. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ?» Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu en Jésus, le bon berger. Il cherche ses brebis. Tout dernièrement, on était avec des amis qui sont venus me rechercher pour que je sois sûre que je revienne. On a fait un trek d'une vingtaine de jours. On est monté jusqu'à la frontière du Tibet. Et là, on a rencontré beaucoup de bergers avec leurs brebis, comme ils s'occupent d'eux, comme ils les cherchent. Et des fois, elles se mettent en danger. Elles arrivent tout près des précipices. Mais il y a toujours le berger qui est là pour les attirer, pour les prendre du bon côté. Ces brebis, c'est comme le Seigneur Jésus lui-même. Il nous cherche. Et j'aimerais vous parler d'une de ces brebis perdues. Son nom est Radhika. Radhika, c'est une infirmière de notre hôpital. Elle est d'un petit village juste à côté de l'hôpital où je travaille, à Tansen, au Népal. Elle y travaille depuis sa jeunesse. Elle s'est mariée sur le tard. C'est sa famille qui a organisé un mariage avec un veuf qui avait 3 enfants. Elle a tout fait pour cet homme. Elle s'est attachée à lui. Elle l'a aimé. Comme lui n'avait pas de travail, il est venu à Tansen. Elle avait une bonne place à l'hôpital, alors elle a fait un emprunt pour qu'il puisse commencer un petit restaurant et qu'il s'installe là avec ses enfants. Elle s'est occupée de cette famille avec beaucoup d'amis. Malheureusement, cet homme, après des années de mariage, l'a quittée pour quelqu'un d'autre. Il est parti. Elle s'est retrouvée seule avec toutes les dettes à son nom. Et c'était très très difficile. À Tansen, j'ai une autre amie que certains ont rencontrée, Sabina, parce qu'elle est venue ici il y a 3 ans. Et Sabina aussi, dans sa vie, a beaucoup souffert. Elle a aussi été rejetée. Son mari s'est suicidé. Elle a été rejetée par sa propre famille. Et elle s'en est très bien sortie. Elle est venue au Seigneur il y a 10 années. Et elle a très, très à cœur. Quand elle voit surtout une femme souffrir, elle est là pour aider. Et Radhika, quand tout allait bien pour elle, Elle la connaissait, elle travaillait dans le même hôpital, mais il y a 400 employés, elles n'étaient pas très proches. Mais elle avait observé la façon dont Sabina s'occupait de ceux qui étaient dans le besoin. Et quand elle fut elle-même en difficulté, elle s'est approchée d'elle. Elle s'est approchée de Sabina. Sabina l'a prise chez elle, l'a aidée, l'a enseignée. Pardon. Et puis, on s'est mis ensemble, on a discuté, on a dit, mais... Pardon. Ça va venir. Ça me touche beaucoup, mais... Comment on peut l'aider à rembourser ses dettes? Donc, son mari avait déjà ouvert un restaurant. Quand il est parti, elle s'est retrouvée avec ce restaurant. Donc, on l'a aidée à continuer. C'est le restaurant où je mange tous les jours à midi. Roti tarkari, c'est du pain rond avec des légumes au curry. On peut manger le dalbat aussi, les lentilles, le riz, la nourriture locale. Et Radhika est une excellente cuisinière. Donc elle a continué à côté de son 100% à l'hôpital à faire tourner ce restaurant. Mais c'était difficile parce que quand elle était à l'hôpital, le cuisinier, des fois, il s'en mettait plein la poche. Les jours où elle était présente, il y avait 1500, 2000 roupies qui rentraient, puis les jours où il lui remettait l'argent à la fin de la journée parce qu'elle travaillait, il y avait 600, 700 roupies. Donc ça devenait des tensions, c'était très difficile pour elle. Ensuite, Sabina est partie, elle nous a quittés, elle est partie sur Pokhara, ça a été très dur pour Radhika. Alors moi, j'ai demandé à ma propriétaire qui avait un petit appartement dans notre jardin, si elle pouvait le laisser à Radhika pour qu'on soit proche, que je puisse continuer à l'aider à grandir dans sa foi, à connaître le Seigneur. Donc Radhika a déménagé chez nous et maintenant on prend nos repas ensemble, on est quand même indépendante, mais on vit plus ou moins ensemble. Et elle a trouvé le Seigneur. Là, je suis sur Skype avec elle régulièrement. Elle me dit « Ouais, alors maintenant, il faut que j'y aille. C'est l'heure de la réunion de prière. » Et puis, elle est bien entourée là-bas. C'est super. Et puis, elle aime beaucoup recevoir. Là, c'est dans ma cuisine. On avait des amis pour un repas. Donc, le bon berger qui cherche la brebis perdue. Radhika était une de ces brebis perdues que le Seigneur a trouvées, qu'il a mis sur ses épaules, dont il s'occupe. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Je disais donc un Dieu qui nous cherche. Certains commentateurs voient dans ce chapitre 15 de Luc une représentation de Dieu en 3 personnes, la Trinité. Un Dieu qui désire réellement cette relation avec nous dans tout ce qu'il est, dans toute sa personne. Dans le bon berger, bien sûr, nous voyons Jésus, Dieu le Fils. Dans la femme qui allume la lampe et balaye la maison, le Saint-Esprit. Et plus tard, nous verrons dans l'histoire du Père et de ses 2 fils, évidemment, Dieu notre Père. Donc un Dieu qui tout entier nous cherche. Et ce qui est très encourageant pour moi, c'est de savoir que rien ne peut arrêter son esprit. Quand Dieu, par son esprit, a commencé une œuvre, il la complète. Le Népal passe par des moments difficiles. La situation, au point de vue religieux, c'est pas mal resserré. Nous le sentons à l'hôpital, à l'école, mais aussi surtout à l'internat Happy Home. Je vous en ai sûrement déjà parlé la dernière fois que j'étais ici. Il y a 23 ans, nous avons ouvert un internat à Pokhara pour des enfants du du nord du pays, où les familles avaient été déplacées et nous aidions ces enfants. On s'est enregistré avec le gouvernement officiellement comme un home pour enfants. Alors cela est bien. Moi, je trouve que c'est positif parce que ça nous oblige à avoir un certain standard. On a des audits chaque année, il y a un contrôle sur ce qui se fait. Mais il y a aussi de très grandes pressions. Parce que, surtout venant d'Inde, mais aussi les hindous extrémistes au Népal, maintenant font beaucoup de pression contre l'Église qui a grandi tellement rapidement. Et ils viennent contrôler à l'internat. Ils ne regardent pas tellement si c'est propre ou si l'alimentation est bonne, mais ils regardent s'il y a des bibles dans les armoires ou sur les étagères. Ils posent des questions à ce niveau-là à nos enfants. Donc il faut qu'on ait une approche un peu différente de ce qu'on faisait dans le passé. Mais le Seigneur est bon et rien ne peut arrêter le travail de son esprit. Parce que dans la Constitution, il y a une liberté de religion. Donc les enfants ont le droit de choisir pour eux-mêmes. Donc, bien sûr, on n'a pas le droit de les obliger à venir à l'église, par contre, mais ils y vont d'eux-mêmes. On a aussi des activités dans le cadre de l'église locale, un peu comme les flambeaux Claire-Flamme ici. Et ils participent. Et on voit vraiment des choses extraordinaires se passer. Vous pensez bien qu'en 23 ans... ceux qui étaient là au début ne sont plus là maintenant. Ils ont grandi, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont appris un métier, et beaucoup d'entre eux sont au Seigneur maintenant. Et on a deux groupes de maisons. Là, c'était dans celui de Pokhara. Il y en a un à Pokhara, un à Katmandou. Surtout de jeunes qui ont trouvé le Seigneur et qui maintenant sont en train de traduire la Bible dans leur dialecte du Haut Mustang, c'est un dialecte tibétain. Et c'est très très encourageant de voir ce que l'Esprit fait dans leur vie. Ils composent des chants dans leur dialecte aussi, et ils sont ils s'occupent de leur communauté, c'est eux maintenant, parce qu'ils viennent d'une région où c'est très difficile d'aller, ils font un permis spécial pour y aller, mais eux ils peuvent y aller librement. Ils retournent au village qu'on a commencé à aider l'année passée pour Noël. Ils ont passé quelques jours au village, tous ensemble. Ils ont nettoyé le village, et puis le jour de Noël, ils ont cuisiné, ils ont invité tous les villageois, et ils leur ont présenté ce qu'était Noël pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés au Népal, il y a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger. Presque chaque famille au Népal à quelqu'un qui travaille à l'étranger et qui renvoie de l'argent au pays. C'est le revenu principal du pays maintenant. Et nos jeunes de Happy Home sont aussi poussés par leur famille. Ils ont une pression incroyable. Ils leur disent, mais non, toi tu parles l'anglais, tu as étudié, c'est toi qui peux aller à l'étranger et gagner de l'argent pour la famille. Donc récemment, j'étais à Paris avec un jeune couple ici de Suisse allemande, où lui est tibétain, il a grandi à Happy Home et elle est suisse allemande, et puis aussi des représentants des donateurs suisses et anglais. On a été rencontrer 9 de ces jeunes à Paris. Et ils vivent souvent dans des conditions très simples, c'est très difficile quand ils arrivent, ils travaillent dans les restaurants et tout ça. Mais il y en a qui ont vraiment soif de trouver une communauté en France. Et merci de prier pour ces jeunes de Happy Home, que le Seigneur a trouvé par son esprit, qu'il a transformé et qu'ils veulent continuer avec lui. Et je veux vraiment louer le Seigneur pour son esprit, que rien ne peut arrêter et qu'il continue d'agir malgré les restrictions. Il est bon, il continue à chercher à illuminer des vies. Et moi, ce que je me dis toujours, c'est qu'il y a une chose qui est très chouette, c'est que si nous, une fois, on ne peut plus retourner, le Saint-Esprit, il n'a pas besoin de visa, il peut toujours être présent, et il est à l'œuvre, il continue à agir. La dernière parabole, tout le monde la connaît par cœur, hein, l'histoire du père et de ses deux fils, on ne la lira pas en entier. Le plus jeune lui demande sa part d'héritage, il s'en va, le gaspille. Il gaspille tout son bien en menant la grande vie. Quand il se retrouve dans la misère, il repense à son père et décide de revenir. Mais son père, qui l'aime d'un amour immense, n'a jamais cessé de l'attendre. On devrait plutôt appeler cette parabole celle du Père aimant, car c'est lui le personnage central de l'histoire, un Père bienveillant qui donne la liberté à ses enfants et qui est toujours là pour eux. Il nous attend tous et espère toujours notre retour. Et je pourrais vous donner plein d'exemples de fils que le Père a accueillis parmi les élèves de notre école de Laboron. Parce que quand je suis rentrée, on m'a demandé, on m'a rappelé à partir au Népal pour ouvrir une école de Laborant-Laborantine. Abhishek, il vient d'une famille chrétienne, c'est mon voisin. Et je crois que c'est celui qui nous a donné le plus de fil à retordre dans l'école, question discipline. Et on a dû sévir très fort. Mais petit à petit, on voit le Père gentiment travailler en lui, le transformer, et il prend un rôle beaucoup plus positif. C'est un jeune hyperactif, donc il faut toujours le contrôler, le calmer. Merci de prier pour Abhishek. Une fois, il y avait un grand orage, et puis ma voix ne porte pas très fort. On n'a pas de micro dans les classes. Alors je lui dis, viens, viens là, tu répètes tout ce que je dis. Et ça, c'était puissant. C'était, il a une voix qui porte, et ça lui faisait aussi beaucoup de bien. Il devait se concentrer. J'aimerais aussi vous parler de Karma, qui a terminé. Il est maintenant de retour à l'hôpital. C'est un jeune qui est arrivé chez nous à l'hôpital. Il n'était pas chrétien. Il est venu comme laborant assistant. Et Sabina l'a pris avec elle une fois pour une donation de sang qu'une église voulait organiser. Et dans cette église, il a rencontré des copains qu'il connaissait. Il s'est joint à cette église. Il s'est donné au Seigneur. Il est vraiment bouillant pour le Seigneur maintenant. Il a été comme un leader dans sa volée. Une influence très très positive. Merci de prier pour Karma, il est le seul chrétien dans sa famille. Il y a aussi des jeunes comme Saurabh. Lui, il vient d'une famille hindoue, de père en fils, ils sont prêtres. Ils vont dans les maisons pour les cérémoniales, lire les textes sacrés. Et Saurabh a été touché par l'Esprit de Dieu. Il s'est converti. Alors au moment où il s'est converti, on l'a renvoyé de la maison. On lui a dit, maintenant tu ne peux plus les mettre les pieds ici. Il s'est retrouvé tout seul. Et c'est les anciens de l'église qui sont venus nous trouver pour voir si on pouvait donner une bourse d'études à Saurabh pour qu'il puisse étudier dans notre école. Donc il est soutenu par le SME. Il est soutenu par vous. Merci beaucoup et merci de prier pour Saurabh, qui est aussi le seul chrétien dans sa famille et pour qui c'est pas tous les jours facile. Il y a beaucoup d'histoires comme ça au Népal, mais l'église grandit. Ça, c'est l'église où je vais à Tansin. C'est une très belle église dynamique. L'église grandit très très rapidement, c'est exponentiel. Et le Seigneur ne nous a pas promis une vie facile. Au contraire, il nous dit dans Jean 15-20, souvenez-vous de ce que je vous ai dit déjà, le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous le persécuteront aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Donc Dieu, un Dieu qui nous cherche, un Dieu qui nous accueille, Dieu dans son être tout entier, le bon berger, le Saint-Esprit, le Père nous accueille. Il veut cette relation avec nous. Il est à l'œuvre, il rassemble ses enfants. Rien ne peut l'arrêter. Et c'est une grâce qu'il nous fait de pouvoir œuvrer avec lui. J'ai souvent l'impression d'être spectatrice de ce que Dieu fait et c'est une joie. Et le défi que je me lance, le défi que je vous lance, et de comment être au quotidien son ambassadrice, son ambassadeur. Comment refléter dans ma vie, dans ta vie, ce message d'amour que Dieu veut que chacun connaisse. Soyons ses ambassadeurs.
Merci. Merci Marianne. Pour ce que tu nous as partagé ce matin, très touchant.